Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le magazine du week-end, c'est samedi et dimanche, 1h20 de décryptage de l'actualité, aussi bien nationale qu'internationale. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h et pour toujours sur franceculture.fr à la réécoute et en podcast. L'Algérie est championne d'Afrique de football. Les Fennecs ont remporté hier la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, contre le Sénégal. Une victoire sportive, fêtée des deux côtés de la Méditerranée, mais aussi une victoire très chargée politiquement. Les manifestants du IRAK, le mouvement qui défie le pouvoir depuis février, y ont trouvé modèle et soutien dans la plus pure tradition du football algérien. Algérie, du stade à la rue, ce sera notre sujet à partir de 13h15. Mais avant cela, nous revenons sur la tribune publiée hier par 35 familles et proches de femmes tuées par un conjoint ou ex-compagnon sur France Info. Une nouvelle intervention dans l'espace public qui montre que la parole se libère et que des propositions sont faites pour réduire aujourd'hui le nombre de féminicides.
Moi, je voudrais rappeler quand même ce qui a été fait depuis 2 ans, parce que les féminicides n'ont pas commencé il y a 2 ans. Et je pense qu'il est important de rappeler que, par exemple, ce terme féminicide, que maintenant on emploie partout, il a été entré dans le vocabulaire institutionnel par le président de la République, qui l'a prononcé à l'ONU, et par moi-même et par notre gouvernement, qui l'avons impulsé. Et les mots sont importants. On ne parle plus de violences faites aux femmes, avec une forme passive, mais de féminicide et de violences sexistes, pour rendre visible ce phénomène particulier du meurtre de femmes par leur conjoint ou par leur ex-conjoint. Nous n'avons pas rien fait en 2 ans. Je rappelle également qu'il y a 2 ans, justement, au moment du lancement de la grande cause du quinquennat, Emmanuel Macron, le président de la République, a rendu un hommage avec une minute de silence à l'Élysée pour toutes les femmes tuées par leur conjoint ou par leur ex-conjoint. Ça peut paraître symbolique, mais c'est important de leur adresser ce message. Et puis, il n'y a jamais eu autant de moyens. Il y a 530 millions sur l'année 2019. C'est un record historique en termes de budget pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne vais pas vous faire là le catalogue des mesures, mais vous savez que nous avons créé une plateforme avec des policiers disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a 2 unités pour dialoguer et pour préparer les plaintes. Nous avons augmenté les moyens du 3919.
Le numéro d'urgence.
Absolument. Et nous leur avons donné un objectif derrière, un objectif de 100% des appels. Et puis le Premier ministre Édouard Philippe a mis 4 millions d'euros sur la table pour une campagne de communication en télévision pour interpeller les témoins, parce que les témoins doivent agir. Quand on est témoin d'un cambriolage, on appelle la police. Moi, je veux que quand on est témoin de violences conjugales chez ses voisins ou auprès de collègues, on appelle la police de la même manière.
Féminicide, le fait d'être tué par un homme parce qu'on est une femme, c'est un terme inventé en 1976 par la sociologue américaine Diana Russell. Il définit donc ce meurtre commis par des hommes parce que ce sont des femmes. Il aura donc fallu un peu plus de 40 ans pour que le concept infuse dans la société, les médias et jusqu'aux décideurs politiques comme Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes, afin de rendre visible et s'identifier la spécificité de ce qui était jusque-là considéré, si l'on peut dire, comme un homicide comme les autres. Il y a bien une spécificité des meurtres de femmes par leurs compagnons et leurs ex-compagnons. C'est ce que rappelle depuis 2016 l'ONU chaque année dans son rapport. Quand les femmes sont tuées, c'est presque toujours dans le contexte de leur relation intime avec les hommes et ou le résultat de violences sexuelles masculines. Le reconnaître, ce n'est donc pas seulement pointer du doigt les coupables, c'est mettre en accusation tout un système selon les associations féministes qui combattent le phénomène. C'est aussi se donner les moyens d'apporter des réponses concrètes, de lutter spécifiquement contre les 130 décès chaque année de femmes environ, un chiffre stable depuis 10 ans en France. Le 30 juin, le collectif des proches et des familles de victimes de féminicides a interpellé le gouvernement dans le Parisien en exigeant « protégez-les ». Marlène Schiappa a annoncé le 3 juillet la tenue prochaine d'un Grenelle consacré à la lutte contre les violences conjugales. Hier, ce sont 35 familles et proches de victimes tuées par un conjoint ou ex-compagnon qui ont signé une tribune sur France Info. Ils demandent des mesures concrètes, notamment l'inscription du féminicide au code pénal. Féminicide, que peut la loi ? C'est donc le sujet de cette première partie du magazine du week-end. Pour en discuter ici en studio à Paris, Zoé Royaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate, pénaliste et porte-parole de la Fondation des Femmes en pointe sur cette question. On est aussi au téléphone avec Caroline Dehaze, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militante, féministe, membre du collectif Nous Toutes. Et enfin, troisième participante de cette émission, Mylène Jacquet, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi au téléphone et vous êtes la présidente de l'association Savannah, co-signatrice justement de cette tribune avec 34 autres proches de victimes. Cette tribune contre les féminicides publiée hier sur France Info. Votre fille, Savannah Torrenti, a été tuée. C'était le 1er mai 2016. Elle avait 23 ans. Je commence avec vous, Mylène Jacquet, si vous le voulez bien. Est-ce que vous estimez qu'il y a aujourd'hui une véritable prise de conscience de la part des pouvoirs publics, de la spécificité de ces meurtres, et donc à parler de féminicide, comme le rappelait Marlène Schiappa dans l'extrait sonore qu'on a diffusé en début d'émission, qui annonce aussi un Grenelle des violences conjugales. Quel est le message que vous, vous portez et que vous aimeriez faire porter justement à ce plus haut niveau de l'État?
Alors oui, c'est certain, il y a une prise de conscience, on ne peut pas le nier, mais entre prise de conscience et puis... les résultats effectifs qu'on peut voir sur le terrain, il y a une grande différence. Donc il reste beaucoup à faire au niveau de ce qui est prévention, sensibilisation, surtout parce que je pense qu'on ne peut pas endiguer le fléau si on n'intervient pas aux racines des violences et au tout début, c'est-à-dire en sensibilisant les enfants à cette différence d'éducation qui est instaurée pour l'instant encore, hein, entre les filles et les garçons, et qui forment le terreau des violences et de tout ce qui en découle.
Il s'agit donc, et vous l'annoncez dans cette tribune, de proposer des mesures concrètes, notamment de faire en sorte que les femmes qui portent plainte soient entendues et protégées. On a entendu dans votre bouche l'importance aussi de l'éducation, mais c'est un autre point important avec l'inscription du féminicide dans le code pénal, c'est d'entendre la parole des victimes et aussi la parole des personnes qui les entourent.
Bien sûr, il faut entendre la parole des victimes, il faut avoir en face des personnes qui soient sensibilisées pour pouvoir accueillir cette parole, parce que ces femmes-là sont dans la détresse, elles ne sont plus elles-mêmes. Il y a tout un processus déjà psychologique, de violences psychologiques qui ont déjà fait un long travail. Et lorsqu'elles arrivent accompagnées avec une association ou quelqu'un d'autre, elles ont déjà un gros poids sur les épaules qui compte, et elles sont vraiment... c'est très difficile pour elles de s'exprimer et de pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de leur plainte et de leur dépôt de plainte, et c'est très compliqué pour elles. Donc il faut être là, il faut les soutenir, les écouter sans jugement et les épauler absolument.
Vous dites, Mylène Jacquet, il existe des signes qui peuvent alerter très tôt sur une situation de violence. C'est des signes que vous avez su voir, ou en tout cas qui sont apparus avec votre fille Savannah Torrenti, mais qui n'ont pas été pris en compte selon vous à leur juste mesure?
Oui. Après, avec le recul, je m'aperçois que certains signes, il y a des prémices, hein, qui peuvent orienter vers une relation qui va s'avérer violente et dangereuse. Il y a des signes, il faut vraiment être vigilant sur...
Quels sont-ils?
Eh ben, par exemple, sur la manière dont les jeunes s'expriment entre eux. Là aussi, il y a un gros travail à faire, mais bon, au sein d'un couple, dès que la personne, l'homme en l'occurrence, hein, puisque c'est souvent lui, la plupart du temps, il faut faire attention au vocabulaire qui est employé, à la manière de s'exprimer, parce que déjà, au niveau des insultes, c'est déjà une forme de violence.
Et qu'attendez-vous concrètement aujourd'hui, Mylène Jacquet, de ce Grenelle des violences faites aux femmes qui a été annoncé donc par le gouvernement pour la date du 3 septembre prochain, qui est une date symbolique là aussi, puisque ça fait 3-9-2019, pour rappeler le numéro d'appel d'urgence, le 3919.
Alors écoutez, il y a beaucoup de choses, hein. Il faudrait qu'il y ait vraiment des mesures concrètes qui soient prises à tous les niveaux. Donc dans le milieu éducatif, pour sensibiliser, sur le terrain, pour qu'il y ait vraiment un état des lieux de ce qui se passe et de ce qui peut être mis en place pour les, de ce qui est mis en place et de ce qui pourrait être mieux mis en place pour les femmes. Et puis surtout des structures d'accueil pour les femmes qui sont en situation d'urgence, comme ça m'est arrivé encore la semaine dernière, où on se demande que va faire la personne qui a été mise en garde à vue quand la compagne a porté plainte et qu'après elle sort. Qu'est-ce qui va se passer ensuite si cette femme retourne chez elle? Elle est un peu à la merci. Et ça s'est passé comme ça, on l'a vu très récemment.
Une dernière question, Mylène Jacquet. Dans la tribune publiée sur France Info, vous évoquez collectivement la solitude des parents de victimes. Totalement oubliés, dites-vous, des pouvoirs publics et souvent isolés. Nous nous sentons méprisés. Là aussi, il y a un gros travail à faire.
Oui, là aussi, il y a un travail, parce qu'il faut écouter les familles de victimes. C'est sûr qu'il y a tout ce qui suit après. Le procès, ça met très longtemps à arriver, donc on est isolé, on ne sait pas trop comment ça se passe, on n'a pas beaucoup d'éléments pour nous indiquer comment va se dérouler le procès, à quel moment, et c'est vrai que c'est très long, c'est très éprouvant.
Merci beaucoup, Mylène Jacquet. Vous serez entendue à l'occasion du Grenelle des violences faites aux femmes. Vous avez prévu d'être présent avec votre association?
Écoutez, oui, j'aimerais bien pouvoir m'y rendre. Je ne sais pas comment ça va se dérouler.
Vous n'avez pas encore été contactée?
Non, je n'ai pas été contactée, pas du tout.
Bon, écoutez, on suivra évidemment ces questions-là. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce début d'émission qui va continuer évidemment sur ce thème-là avec vous, Zoé Royot. Je rappelle que vous êtes avocate, pénaliste et porte-parole de la Fondation des Femmes, et avec Caroline Dehas qui est également au téléphone, militante féministe et membre de Nous Toutes. Ce témoignage qu'on vient d'entendre de Mylène Jacquet, Zoé Royot, j'imagine qu'il résonne en vous et qui rappelle beaucoup, beaucoup d'autres témoignages des femmes que vous êtes amenées, enfin des familles plutôt, que vous êtes amenées à suivre et à défendre dans ce type de cas?
Oui, vous avez raison, et c'est très émouvant et c'est surtout très énervant parce qu'on se rend compte que c'est toujours la même chose qui peut être racontée. Peut-être que la différence, c'est qu'aujourd'hui, alors les politiques s'en saisissent, mais les victimes et les familles des victimes ont la parole et prennent la parole. Comme vous l'avez dit dans la tribune qui a été signée par ces 35 familles hier, avec des mesures concrètes qui sont proposées, parce qu'en fait, elles savent malheureusement de quoi elles parlent, et elles savent quelles ont été les difficultés auxquelles leurs filles, leurs sœurs, leurs nièces ont été confrontées, et auxquelles difficultés auxquelles elles sont confrontées aussi aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir écouter. Moi, je suis ravie d'entendre que Marlène Schiappa est très enthousiaste et très heureuse de tout ce qu'elle a fait depuis 2 ans, et du record dans les moyens qui sont mis. Il y a aussi un chiffre record, on est à 78 femmes qui sont mortes depuis le mois de janvier. C'est absolument inacceptable, évidemment. Une, c'est une de trop. Mais je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité aussi par rapport aux moyens qui sont mis en marche, qui sont mis en place. Il y a des lois, il y a aujourd'hui un cadre, mais il y a aussi des humains qui sont un peu résistants. Il y a aussi des mentalités qu'on n'arrive pas à faire évoluer. C'est là-dessus qu'il faut pouvoir travailler. Et il faut écouter les familles des victimes.
Oui, on va revenir évidemment dans le détail des propositions. Mais Caroline Dehas, dans ce que disait Mylène Jacquet, sa première intervention, ça a été de dire il y a une intervention qui est presque de l'ordre systémique. C'est-à-dire il faut commencer par éduquer les petits garçons, évidemment, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et changer même le système d'éducation qui instaure dès le début cette inégalité entre femmes et hommes. Et c'est là que ça se joue au tout début. Et c'est ça qui est essentiel.
Oui, tout à fait. Mylène Jacquet a entièrement raison. On n'en finira pas avec les violences sexistes et sexuelles, et donc avec les féminicides, en prenant les choses par le petit bout de la lorgnette. Si on met en place uniquement, c'est nécessaire, des places d'hébergement. Si on réforme ou qu'on forme les magistrates et les magistrats, c'est nécessaire. Si on forme les policiers et les gendarmes, c'est nécessaire. Mais si on ne fait que ça, ça ne suffira pas. Les violences sexistes et sexuelles, dans notre société, elles existent depuis des millénaires. Et si on veut les faire cesser, c'est possible, hein, elles ne sont pas une fatalité, il faut qu'on mette les moyens. Et là, moi, je suis à la fois optimiste et en colère. Je suis optimiste parce qu'on sait faire en France des politiques publiques qui changent la vie des gens de manière radicale. Et là où je suis en colère, c'est que je vois que le gouvernement aujourd'hui, malgré tout ce que dit Marlène Schiappa, elle a raison, il y a des choses qui ont été faites. Mais le décalage avec les moyens nécessaires, avec l'investissement nécessaire des pouvoirs publics, il est tellement impressionnant. Il est tellement énorme, le décalage entre ce qu'ils font et ce qu'il faudrait faire, que franchement, parfois, ça laisse un peu désarçonner. Quand je dis qu'on est des champions en France de politique publique, l'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple de la sécurité routière. En matière de sécurité routière, on a été capable, en 20 ans, c'est court sur l'histoire de l'humanité, en 20 ans, de changer radicalement nos mentalités et nos comportements. Et en fait, quand on regarde comment on a fait pour la sécurité routière, il faudrait appliquer ce mode d'emploi sur la question des violences. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'a décidé de faire le gouvernement.
Alors, essayons de rentrer tout de même, il y a un certain nombre de mesures concrètes sur la table, et j'aimerais en lister quelques-unes avec vous deux, Zoé Royot et Caroline Dehas, et voir un petit peu dans quelle mesure elles peuvent avoir justement l'impact nécessaire pour modifier cette situation que vous décrivez, Caroline Dehas. Prenons tout d'abord, puisque c'est une des premières demandes, inscrire le féminicide dans le code pénal, Zoé Royot. C'est l'une des revendications de cette tribune dont on parle aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, c'est une mesure de nature à changer les choses?
Bon, en tout cas, ça veut dire qu'on met officiellement un mot sur un drame qu'on vit, comme disait Caroline Dehas, depuis maintenant bien longtemps. Donc c'est important, et là je rejoins Marlène Schiappa, c'est pas juste un symbole, c'est important. On parle d'homicide quand on tue l'être humain, on parle d'infanticide quand c'est le meurtre d'enfant. Aujourd'hui, la France assiste à un phénomène qui est dramatique, et donc c'est le féminicide. Donc c'est important de mettre des mots, ça donne forcément du sens à ce qui peut se passer, et puis avec des sanctions qui seront adéquates aussi, des sanctions encourues. Donc oui, je pense que c'est bien. bien. C'est évidemment pas suffisant, mais les mots ont un sens. Donc, c'est important de le reconnaître. Oui,
oui, Caroline Dehas, c'est aussi une façon de reconnaître, encore une fois, la dimension systémique et fondamentale de ce type de violence et leur spécificité.
Oui, moi j'alerte juste sur le fait que changer la loi pour faire rentrer un nouveau terme ou changer la loi pour mettre un nouveau dispositif législatif ne permettra pas d'en finir avec les féminicides. Bien sûr. On a besoin d'une politique beaucoup plus globale et on a besoin surtout que le président de la République s'engage sur la thématique et développe les moyens suffisants.
Il s'est engagé en déclarant tout de même l'égalité femmes-hommes grande cause nationale, puis maintenant en annonçant un certain nombre de mesures, on y reviendra peut-être, mais en tout cas ce Grenelle des violences conjugales, c'est pour vous, c'est pour l'instant, ce n'est que de l'annonce et ça manque de concret, si je comprends bien ce que vous dites.
Je vous prends un exemple, je fais la sécurité routière, un des éléments qui a permis de changer les mentalités systématiques de l'ensemble des jeunes de ce pays. On a créé ce qu'on appelle l'attestation de la sécurité routière, en cinquième et en troisième, vous êtes au...
Ah, on vous a perdu, Caroline Dehas. Je pense qu'on va essayer de vous rappeler pour que vous puissiez... Caroline Dehas, on vous a perdu quelques secondes, je suis désolé. On n'a pas bien entendu votre exemple sur la sécurité routière. Je comprends que vous parliez de la nécessité pour les collégiens de passer d'apprendre la sécurité routière et que ça a eu un effet probablement sur la diminution du nombre de morts sur la route. Pardon, quand on vous a perdu, j'essaye de compenser un petit peu ce que vous venez de dire.
Oui, tous les auditeurs et auditrices ont entendu parler de l'attestation de la sécurité routière. Ils l'ont passé en cinquième et en troisième. En tout cas, tous ceux qui ont moins de 40 ans. Et donc, ça veut dire que tout le monde s'en souvient. Ça a marqué des générations entières. Il faut qu'on fasse pareil sur les violences. On pourrait créer un brevet de la non-violence qui est exactement la même conséquence sur les mentalités qu'une attestation de la sécurité routière.
Oui, il y a aussi des mesures concrètes qui peuvent être mises en place. Et simplement, pour terminer sur le féminicide, c'est une circonstance aggravante, par exemple, dans plusieurs pays d'Amérique latine. Ça veut dire qu'on peut très bien, le meurtre peut être aggravé lorsqu'il est commis à raison du sexe de la victime.
Oui, comme pour les meurtres à caractère raciste, par
exactement,
exemple.
Exactement. La qualité de la victime devient une circonstance aggravante. Après, sur les mesures concrètes, là, aujourd'hui, c'est évident, la formation, l'éducation, changer les mentalités, ça prendra malheureusement un peu de temps. Là, par exemple, on peut simplement appliquer une mesure qui est dans le code de procédure pénale, qui est de dire aux policiers qu'ils n'ont pas de pouvoir d'appréciation sur l'enregistrement des plaintes quand les victimes, parce que c'est ce qu'on entend des familles des victimes, qui explique que les victimes ont déposé plainte 2, 3, 4, 5, 6 fois et que parfois elles ont été encouragées à déposer simplement une main courante qui ne déclenche aucune poursuite, hein, ou elles ont été dissuadées parce qu'on leur a dit vous n'avez pas de traces de violence, parce qu'évidemment les violences psychologiques ça laisse moins de marques que les violences physiques, ou vous n'avez pas certificat médical, ou alors simplement le commissariat est fermé aujourd'hui. Et ça c'est pas acceptable. Et le code de procédure pénale impose aux services de police d'enregistrer les plaintes, ils n'ont aucun pouvoir d'appréciation, quand même ils ne seraient pas compétents territorialement. Donc ça déjà, ça peut changer les choses. Il y a aussi une autre mesure et qui nous vient de la Convention d'Istanbul, qui est de dire que le parquet peut s'auto-saisir. Vous savez, on voit dans les scandales financiers, les histoires de Fillon ou autres comme ça, on voit des situations où le parquet se saisit lorsqu'il entend une situation délictuelle. Il se saisit et il ouvre une enquête d'office. Ben, il pourrait faire la même chose en matière de violence quand un témoin, un voisin alerte d'une situation qui lui semble être de violence d'une femme qui en serait victime. Le parquet peut s'auto-saisir et déclencher une enquête. Parce que ce qui est compliqué, en fait, c'est que les femmes n'ont pas toujours le courage, la force d'aller déposer plainte, la peur des représailles aussi, ou l'absence de possibilité et de liberté d'y aller. Et donc ça, c'est important qu'il puisse avoir un relais avec des sanctions lorsque on assiste à des violences et qu'on ne fait rien. C'est aussi une solidarité, la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça ne concerne pas que les experts sur un plateau télé ou dans un Grenelle. Ça concerne absolument tout le monde, tous ceux qui peuvent en être témoins un jour ou un autre. Et on connaît forcément une femme qui est ou qui a été victime de violences autour de nous.
Caroline Dehas, la garde des Sceaux Nicole Belloubet a saisi le 21 juin l'inspection générale de la justice, justement pour essayer de voir s'il y a un manquement dans cette chaîne pénale qui, depuis le dépôt de plainte, jusqu'à évidemment ensuite le traitement de cette plainte, les procès éventuellement qui peuvent suivre, s'il y a eu des manquements, on vient d'entendre dans l'intervention de Zoé Royau, qu'il y a des questions qui se posent à ce titre-là.
Un des exemples qu'on peut prendre en matière de dysfonctionnement en France, qui pour moi est assez symptomatique de notre manque d'engagement collectif sur cette question, c'est l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, c'est un papier que signe le juge aux affaires familiales et qui permet de protéger une femme victime de violences au sein de son couple sans qu'elle porte plainte.
c'est un papier qui permet une décision, une ordonnance, qui permet par exemple d'éloigner le conjoint violent ou de lui interdire de porter une arme. C'est un dispositif qu'on a copié-collé sur l'Espagne. En Espagne, ils délivrent chaque année 23 000 ordonnances de protection, chaque année. En France, on en délivre 1 300. Ça montre bien qu'en France, alors qu'on a des outils qui existent dans la loi et qui sont efficaces, les magistrates, les magistrats ne sont pas formés, ne sont pas sensibilisés, ne sont pas mobilisés pour utiliser ces outils qui permettent pourtant de protéger les femmes de manière efficace.
Zoé Royo, je rappelle que vous êtes avocate pénaliste, vous avez donc contact, relation au quotidien avec ces magistrats. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Carolina? C'est un problème de formation, de sensibilisation de ces magistrats qui ne savent même, enfin en tout cas qui ne mobilisent pas l'arsenal juridique qui est à leur disposition.
Oui, parce qu'ils, Carolina a raison, ils le connaissent l'arsenal juridique, bien sûr, ils le connaissent, mais ils hésitent parce qu'ils ont l'impression, notamment pour les JAF, donc les juges aux affaires familiales, qui sont les magistrats qui font du civil, qui interviennent dans le cadre d'un divorce ou d'une garde d'enfants, une ordonnance de protection, pour eux, c'est une mesure qui est pénale, et donc ils hésitent, ils sont timides, ils ont besoin, ils exigent plus de conditions que ce que la loi ne demande, c'est-à-dire qu'ils demandent qu'une plainte soit déposée, éventuellement qu'une décision pénale soit rendue, ce que la loi n'exige absolument pas. Ils ont du mal à prendre cette mesure qui pourtant est une mesure provisoire, qui vise effectivement, comme Karine Dehas l'a rappelé, à écarter le conjoint présumé ou suspecté d'être violent du domicile conjugal, en tout cas à protéger la femme pendant une période qui est donnée, qui est de 6 mois, éventuellement renouvelable. Et le problème, c'est qu'ils ne prononcent pas ces ordonnances qui pour autant pourraient sauver des vies et protéger des femmes. Donc oui, il y a une difficulté, et ça rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a des outils. Alors évidemment, il faut les améliorer. On espère que le Grenelle permettra de prendre des mesures concrètes, au-delà évidemment des mesures budgétaires, l'argent est toujours le nerf de la guerre, mais que le Grenelle permettra de prendre des mesures concrètes et à chacun aussi d'assumer ses responsabilités au quotidien. Mais on a encore aujourd'hui, encore une fois, un système pénal et un système civil qui existent, les bracelets anti-rapprochement, les surveillances électroniques, le téléphone grave danger, enfin différents éléments qui permettraient de protéger des femmes et qui font que ce chiffre de 78 est absolument insupportable et prouve bien qu'il y a une marge d'erreur qui est une marge humaine, et c'est ça qu'il faut pouvoir combler. Et c'est pour ça que je sais que l'idée du Grenelle divise un peu, notamment les assos sur le fait qu'on a l'impression que ça va être simplement une réunion d'experts qui vont se gausser en se disant à quel point ils sont formidables et enthousiastes. Ça, je l'entends, mais c'est aussi peut-être le moyen à ce moment-là de se réunir et d'essayer d'avoir des éléments concrets, et ça prouve aussi l'importance qui est accordée à ces drames humains quotidiens. Mais ça veut pas dire que, et ça a été dit notamment par nous toutes, les violences partent pas en vacances. Donc ça veut dire que cet été, il faut continuer à se mobiliser. Et ça, c'est une chose. Dès demain, Castaner peut très bien décrocher son téléphone ou faire un petit...
Le
ministre de la, voilà, exactement. Monsieur le ministre de l'Intérieur peut parfaitement, dès demain, appeler les différents préfets et policiers de France pour leur dire maintenant vous prenez les plaintes, et si vous pensez qu'il y a une situation qui est suspecte, vous vous déplacez, vous interrogez, vous protégez. C'est aussi le rôle des services de police et de gendarmerie en France, et ils en ont les moyens aujourd'hui légaux.
Caroline Dehas, est-ce que vous faites partie de ces féministes qui, comme vient de le dire Zoé Royo, ont un peu des doutes sur la tenue de ce Grenelle des violences faites aux femmes, ou est-ce que vous pensez que malgré tout que c'est une disposition, un moment qui va permettre à différents acteurs de se rencontrer sur ces questions-là et peut-être de faire avancer les choses?
Très sincèrement, la clé, c'est le président de la République et le Premier ministre. Tant qu'ils ne seront pas embarqués et volontaire et mobilisé sur cette politique publique, la réalité, c'est qu'on n'arrivera pas à faire bouger l'ensemble des...
On vous a encore perdu, Caroline Dehas, décidément. La ligne est vraiment mauvaise. On va peut-être essayer de vous rappeler, mais je tourne vers vous, Zoé Royo, puisque vous avez évoqué aussi cette question du budget, de l'argent, nerf de la guerre. Alors, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, mais il se trouve qu'en préparant l'émission, j'ai entendu Marlène Schiappa parler de plus de 500 millions d'euros mis sur la table. Moi, j'ai, en lisant un article dans Le Monde, je crois, il parlait plutôt de 79 millions seulement aujourd'hui, et non pas de 500 millions. Comment expliquer cette différence radicale? Qu'est-ce qui est mis dans les 500 millions selon vous?
Je serais ravie qu'elle nous le dise. Enfin là, ça veut dire que c'est aussi des arguments politiques. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce que nous disent les assos, c'est que en fait, il y a simplement un manque de moyens. Il y a un manque de moyens humains. On a bien vu là dernièrement que différentes associations, notamment une association qui faisait un travail formidable pour lutter contre la cyberviolence dont sont victimes les femmes, est obligée de mettre la clé sous la porte. C'était des bénévoles, mais qui n'ont plus aucun moyen. Donc ça dit quand même aujourd'hui qu'il y a une vraie difficulté. Et alors, je serais ravie que le Grenelle permette notamment, c'est aussi l'intérêt de ce Grenelle, de voir de quelle enveloppe on peut avoir besoin pour le 3919, pour tous les accueils téléphoniques, les services d'écoute qui sont fondamentaux, parce que les assos, elles font un travail, elles aident les victimes sur le terrain concrètement. Et c'est aussi des places d'hébergement dont on a besoin, parce qu'on nous dit il faut que la femme reste au domicile et c'est à l'homme de partir, c'est plus confortable, si je puis dire, pour elle. Oui, sauf qu'en fait, la réalité, c'est que si elle reste chez elle, il y a aussi une question qui est que lui connaît son adresse, donc il peut revenir le lendemain. Donc il faut aussi pouvoir protéger les femmes. La tribune des victimes hier disait, des familles des victimes disaient hier, on pourrait mettre en place, et c'est une bonne idée, des foyers pour accueillir les auteurs, et avec un soutien psychologique, en tout cas une cellule psychologique, parce que ça peut passer aussi par du soin. C'est intéressant, c'est des projets qui sont concrets et qui permettent d'éradiquer un phénomène que, quoi qu'on en dise aujourd'hui, qui nous glisse des mains. On a tous des bonnes idées, mais on ne sait toujours pas comment faire en sorte que demain le chiffre soit zéro.
Le 1er juillet, Nicole Belloubet annonçait qu'elle voulait généraliser justement ces bracelets électroniques afin d'éloigner les auteurs de violences conjugales. Ils devraient être mis en place à l'automne. C'est un dispositif qui existe, vous l'avez déjà évoqué. Comment ça fonctionne, Zoé Royot ? Et est-ce que c'est une mesure qui concrètement porte ses fruits ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de recul malheureusement pour savoir ce qu'il en est réellement. Nicole Belloubet, et c'est bien, d'abord elle a été très, très humble en disant qu'effectivement il y avait eu là des difficultés, qu'il y avait des problèmes, que le chiffre montrait bien que même s'ils étaient enthousiastes et tentaient de réagir, c'était pas suffisant. Donc ça, c'est d'abord important de faire un constat. C'est toujours important l'humilité dans la vie. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, ces bracelets anti-rapprochement qui permettent de géolocaliser. Alors, les assos sont pas forcément pour, parce que ça veut dire que ça maintient un lien entre l'auteur et la victime. Le bracelet de la victime risque de sonner quand l'auteur se rapproche, mais c'est un processus qui a été mis en place en Espagne et qui fonctionne bien, qui permet de protéger donc les victimes. Donc l'idée de Nicole Belloubet, c'est de faire en sorte que ce soit pas uniquement après la condamnation, mais que ce soit aussi pendant le temps de l'enquête, que ce bracelet puisse être posé sur l'auteur. Et l'idée, c'est que quand l'auteur s'approche de la zone où est la victime, ça sonne à la fois chez ce qu'on appelle le SPIP, qui sont les services d'insertion et de probation, donc pénitentiaires, qui sont les milieux ouverts pénitentiaires, et ça sonne aussi chez la victime pour qu'elle puisse le savoir. Donc c'est à la fois extrêmement flippant pour elle et en même temps très très utile, et ça fonctionne bien en Espagne. Donc c'est aussi un moyen, comme le téléphone grave danger aussi, qui est un moyen pour la victime d'être liée à un serveur lorsqu'elle se sent en grave danger.
Oui, c'est un dispositif de téléprotection des personnes, donc le TGD, qui est un boîtier sur lequel on peut appuyer, mais malheureusement, en 2018, deux femmes équipées de TGD sont mortes malgré tout sous les coups de...
Parce que ce que ça dit, alors ça c'est le TGD, donc c'est le téléphone grave danger. Le problème en fait de ce genre de situation, c'est que malheureusement, quand on a affaire à quelqu'un qui est déterminé et qui n'a donc peur de rien, ni de la prison, ni de la police, ni de mourir, il va au bout de son envie, si je puis dire. Donc si l'homme est déterminé à tuer son ex-femme ou sa femme, il le fera. Mais on peut néanmoins protéger au maximum pour éviter. Il faut rester optimiste quant aux moyens dont on dispose. On peut peut-être pas éradiquer complètement, même si on tend vers ça, mais en tous les cas, on peut faire en sorte de protéger un maximum de femmes et de filles.
Caroline de Haas, on a parlé de cet exemple qu'est l'Espagne. Vous avez signalé, par exemple, à quel point certaines mesures mises en place, comme les procédures d'éloignement en Espagne, ont été efficaces. Est-ce que, dans cette comparaison, finalement, des mesures qui pourraient être prises, il y a d'autres choses qui pourraient inspirer des dispositifs en France?
La première chose, c'est la question des moyens. En Espagne, ils ont mis 1 milliard d'euros sur la table en 5 ans.
Je ne sais pas si vous étiez revenu parmi nous, mais on a parlé en effet avec Zoé Royot de cette question, puisqu'au début d'émission, Marlène Schiappa, dans l'extrait qu'on a passé, parlait de 500 millions d'euros mis sur la table. Je disais que en préparant l'émission, j'avais plutôt vu des chiffres qui étaient plutôt autour de 70-80 millions d'euros. C'est vrai qu'on est loin du milliard.
Et puis la deuxième chose, c'est que la plupart des mesures dont on parle, notamment en prévision de ce Grenelle, c'est des mesures qui arrivent pour protéger les femmes une fois que les violences ont commencé. La priorité d'une politique publique sur les violences, ça serait de faire en sorte que les violences ne commencent pas, de prévenir les violences, d'empêcher les violences. Ça passe par l'éducation, ça passe par le rappel des sanctions, ça passe par des campagnes de communication à la hauteur, et ça passe par le fait, à tous les échelons, d'arrêter de banaliser les violences. Quand vous avez un candidat à la mairie de Paris de La République En Marche qui traite ses concurrents par des mots qui sont des mots d'injures, des mots violents, des injures sexistes, ça banalise les violences dans l'espace public.
Vous êtes d'accord, Zoé Royo, avec cette
loi? Oui, je suis parfaitement d'accord. Et puis, il y a aussi un autre outil en Espagne qui fonctionne très bien, qui est le tribunal qui pourrait être dit mixte, c'est-à-dire un tribunal qui se prononce à la fois sur des mesures civiles et des mesures pénales, pour revenir un peu à ce qu'on disait sur l'ordonnance de protection. Parce qu'en fait, ce qui manque, je pense, beaucoup en France, c'est un dialogue entre les magistrats. C'est-à-dire qu'on a un magistrat comme une équipe qui est saisie du volet pénal, donc le viol et violence, par exemple, et puis un autre magistrat qui va être saisi de tout ce qui concerne le divorce, l'autorité parentale. Parce que ça aussi, c'est une chose que nous disent les familles des victimes, c'est que une fois que leur fille, leur sœur est morte, l'auteur qui a reconnu les faits mais qui est présumé innocent, c'est ce que le système français nous dit, et ben lui il a toujours l'autorité parentale sur les enfants. Donc ça veut dire que les grands-parents qui tout d'un coup accueillent leurs petits-enfants, et ben n'ont aucune possibilité, aucun droit sur leurs petits-enfants, et c'est le type que du fond de sa cellule qui continue à guider la vie civile de ses enfants. C'est quand même problématique. Et donc juste pour dire qu'il n'y a pas forcément de dialogue entre les magistrats qui pour autant sont dans le même tribunal, mais qui ne, c'est pas la culture française en fait de mélanger comme ça et de dialoguer autour d'une table pour dire, voilà, moi là, il y a cet élément-là qui me permet de dire qu'il y a eu des violences, il faut absolument permettre un éloignement du domicile, de confier la garde exclusive des enfants à la mère et pas au père, de suspendre l'autorité parentale, ne serait-ce que de manière provisoire. Et ça, l'Espagne a compris ça. Elle a compris que ça passait aussi par un dialogue. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout d'un coup, une solidarité, de le dire qu'on va, on va pas les combattre tout seul dans notre coin, on pourra les combattre ensemble et avec les différents acteurs et leurs différents pouvoirs mis ensemble.
Vous avez insisté toutes les deux, Zoé Royo, Caroline De Haas, sur la nécessité, pardon, de mettre en place des dispositifs concrets, mais des dispositifs qui soient des dispositifs d'éducation, de formation des policiers, des gendarmes, des magistrats, parce qu'il y a encore trop d'idées fausses, et notamment sur la nature des violences faites aux femmes et qui peuvent mener à la mort. Il y a la nature des violences, évidemment, qui sont psychologiques, verbales, physiques, économiques, sexuelles. Ce sont les 5 types de violences dénoncées. C'était dans le JDD en 2017 par les victimes. Quand on leur pose la question, il y en a donc 3 sur 5 qui sont des violences qui ne se voient pas, si on peut le dire comme ça, Zoé Royo.
Oui, bien sûr, c'est des violences qui ne se voient pas et donc qui sont certainement beaucoup plus dures, parce que précisément on peut pas tendre la main, on peut pas aider, et que les victimes d'ailleurs n'arrivent même pas forcément elles-mêmes à comprendre, à s'identifier comme victimes. Et en général, le moment où elles déposent plainte, c'est quand leurs enfants, si elles en ont, sont en danger aussi, sont exposés aussi, ou si tout d'un coup elles entendent ou elles ont peur que l'auteur, notamment de violences sexuelles, commette d'autres formes de violences sexuelles sur d'autres femmes. Et là, parce que il y a une forme d'empathie et de solidarité encore une fois qui se crée à ce niveau-là, elles décident éventuellement déposer plainte. Mais c'est vrai que c'est des violences qui sont difficiles à identifier et donc à éradiquer, bien sûr.
Caroline De Haas, sur cette dimension d'invisibilité d'une grande partie des violences qui sont dénoncées par les victimes.
Ça fait partie de ce qu'on raconte dans les formations de professionnels. On leur donne des techniques pour détecter les violences. Et parmi ces techniques, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de violence ou la stratégie de l'agresseur. C'est des éléments qu'on retrouve dans presque toutes les histoires de violence qui sont...
Bon, décidément, on n'a pas de chance avec vous, Caroline De Haas. Vous connaissez peut-être cette technique, vous pouvez prendre relais.
C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, contrairement à ce qui peut être dit là, les professionnels, notamment les professionnels de la justice ou de la police, ont, dans le cadre de leur formation initiale et continue, ont différents kits qui leur sont donnés pour essayer de détecter les violences. Mais ça veut dire à ce moment-là que, parce que là on parle de professionnels, donc ça veut dire à ce moment-là que ce sont des gens qui sont confrontés à des femmes qui sont déjà venues déposer plainte. Ce qui est intéressant, c'est des gens de la société civile qui pourraient, une sœur, une grand-mère, qui pourraient détecter qu'il peut y avoir à ce moment-là une difficulté et des violences qui sont commises.
Zoé Royo, je vous pose un peu la même question que celle que j'ai posée à Mylène Jacquet pour terminer l'entretien avec elle en début d'émission. Vous serez présente avec la Fondation des Femmes lors du Grenelle qui s'annonce le début septembre.
La Fondation des Femmes ne veut pas se faire endormir sur un argument de campagne et simplement être là pour le décor. On n'est pas des figurantes, c'est évident, mais on veut pouvoir participer à tout ce qui permettrait de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Donc relayer la parole des victimes avec lesquels on peut travailler. Et donc oui, bien sûr, on aura des mesures à porter, on proposera des mesures, et puis on ne se laissera pas, encore une fois, endormir par les tables rondes d'experts.
Et ben, on suivra tout ça, évidemment, à la rentrée, c'est le 3 septembre, à partir du 3 septembre, ce Grenelle. Merci beaucoup, Zoé Royo, d'avoir été ici en studio avec nous. Merci à Caroline De Haas, malgré la ligne téléphonique un peu difficile, d'avoir participé à cette première partie du magazine du week-end.
Shirt now, red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal.
Billie Eilish, Bad Guy, le single multiple fois platine de la jeune auteure, compositrice, interprète américaine de 17 ans.
Le magazine du week-end, Raphaël Bourgois.
Eh bien voilà, nous y sommes, mon cher Fred. Le coup franc de la dernière chance pour le Sénégal, 95e minute. C'est le Sénégal qui va tenter d'égaliser dans ses ultimes secondes. Sadio Mané qui décale, Salif Sané, c'est dans le mur. Et c'est fini! La joie des Algériens, 29 ans après, les Fenech remportent une deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations.
Algérie, victoire de la CAN 2019 en direct sur les Champs-Élysées.
Taïa Djizel, on a gagné, on a gagné.
Nous, on fait ça premièrement pour le peuple, pour nos familles, pour le peuple en Algérie, surtout avec ce qui se passe en Algérie en ce moment. Et j'espère qu'on les a rendus fiers. J'espère qu'on les a rendus fiers parce que nous, en tout cas, on est fiers. On est fiers d'avoir un peuple comme ça en Algérie.
On est à la deuxième minute du match. Bagdad Bounedja tente un tir. Il est contré par le défenseur sénégalais Salif Sané. Le ballon part en cloche et finit dans le petit filet sous l'œil médusé du gardien. Un but, le seul de la rencontre, qui a permis à l'équipe nationale algérienne de remporter donc l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations et de concrétiser ainsi les espoirs de tout un peuple bien au-delà du football. Car l'épopée des Fenech résonne depuis quelques semaines avec le mouvement de contestation qui agite l'Algérie. Le Irak, le mouvement inonde les rues du pays depuis le 26 février dernier et chaque vendredi voit descendre dans les rues toutes les composantes de la société. Malgré le renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à briguer un cinquième mandat, les manifestants réclament un vrai changement de régime incarné par le président par intérim Abdelkader Ben Salah et surtout par la permanence du pouvoir de l'armée en la personne du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Ce lien entre politique et football est ancien en Algérie où les stades ont été le lieu de contestation depuis la lutte pour l'indépendance. Les supporters structurent les mouvements en l'absence d'organisation politique et syndicale, portent les revendications, inventent les symboles de rassemblement comme la Casa del Mouradia, l'hymne du mouvement populaire écrit par le groupe de supporters l'USM Alger, Ouled El Badja, les enfants d'Alger dont on vient d'entendre un extrait. Alors Algérie, du stade à la rue, c'est notre second sujet du jour. Et pour en parler, trois invités, dont deux ici en studio. Karim Amelal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain franco-algérien. Vous êtes également enseignant à Sciences Po et vous avez publié en mai dernier un ouvrage, un roman, Dernière heure avant l'aurore. C'est un roman qui traite de ce qu'on pourrait appeler, en tout cas de ce que Abdelmalek Sayad appelait la double absence, c'est-à-dire le retour d'Algériens qui ont vécu une vingtaine d'années en France, qui reviennent dans leur pays et qui ont du mal à s'y sentir chez eux, sans tout à fait se sentir chez eux en France non plus. C'est un phénomène bien connu des historiens et des sociologues et qui éclaire certainement aussi ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Avec vous en studio, Michael Correa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant. Alors vous, votre spécialité, c'est moins l'Algérie que le football. Vous avez publié une histoire populaire du football à la découverte. C'était là, à la rentrée de 2018. Un ouvrage dans lequel vous consacrez d'ailleurs un chapitre, notamment à cette première équipe du FLN à la fin des années 50, qui a été si importante également dans ce mouvement de libération de l'Algérie. Et enfin, on est en téléphone, et en tout cas on essaye d'être au téléphone à Alger avec Amel Boubekeur, qui est sociologue franco-algérienne associée à l'EHESS. On attend de la voir pour savoir un petit peu l'ambiance à Alger, mais peut-être que l'un et l'autre, vous avez regardé les images, vous avez des contacts, vous savez un petit peu comment ça s'est passé. On a l'impression que c'est de part et d'autre de la Méditerranée, Karim Amela, l'intensité de la réaction a été très importante, peut-être parce que justement ce n'est pas que du football.
Évidemment, c'est colossal. Moi j'étais dans un, on le disait juste avant, dans un petit bar à Ménilmontant, un bar algérien, un bar kabyle, et l'ambiance était extraordinaire. De l'autre côté de la Méditerranée, d'après ce que j'ai pu voir, et évidemment c'est encore plus intense, et c'est normal comme vous le dites, parce que c'est une victoire sportive. Ça fait 30 ans que l'Algérie, enfin à peu près que l'Algérie n'a pas gagné la CAN, donc ils sont champions d'Afrique, deuxième étoile. Et c'était frappant hier d'ailleurs dans le bar où j'étais, et un peu partout bien sûr, c'est que, vous le dites, ça renvoie aussi à un match qui n'est pas que sportif, qui est aussi politique.
Et parce que le match en lui-même n'était pas un très très
bon
match.
Non, il n'était pas hyper intéressant, mais bon, l'Algérie,
comme souvent les finales,
a gagné, hein. Comme souvent les finales, c'est un match dur aussi. Et le match politique qui se déroule à peu près au même moment et concomitant. Et c'était frappant d'ailleurs de voir hier, dans les tribunes du stade au Caire, à Alger évidemment et dans toute l'Algérie, mais aussi dans le petit bistrot dans lequel j'étais à Ménilmontant, des slogans qui étaient très très politiques. Et depuis le début du mouvement, depuis le mouvement du 22 février, eh bien c'est le cas. Il y a une vraie identification des Algériens à leur équipe et en fait de l'équipe au mouvement. Deux joueurs, et en particulier un, Adlan Guedioura, a tweeté, je crois ce matin ou hier soir, en disant que c'était la victoire du Hirak, en fait. Que
oui, oui, on l'entendait dans le son qui a ouvert l'un de ses joueurs, dans le son qui a ouvert cette émission, disant voilà, c'est pour le peuple, exact. Notre peuple en Algérie, pour faire avancer les choses. Et on va revenir évidemment sur cette dimension, Michael Correa, quand même un mot sur justement voilà cette presque confusion, cette confusion entre les slogans politiques et les slogans scandés par les supporters. Ça ne vous surprend pas?
Non, pas du tout. Pour l'anecdote, donc hier je regardais aussi le match dans un café de Ménilmontant.
On a tous fait la même chose.
Et pour l'anecdote, voilà, une amie algérienne a vraiment fondu en larmes. Elle s'est précipitée vers son père qui était aussi en larmes et son père lui a dit cette année on a tout gagné, on va tout avoir. Donc ça veut vraiment dire on a eu le mouvement et on va réussir à destituer le clan, enfin on a réussi en tout cas pour le moment à destituer le clan Bouteflika, et on a aussi cette victoire de la CAN. Donc effectivement, football et politique, encore plus en Algérie, hein, sont vraiment intimement liés, quoi. Et ça, dès le début du mouvement du 22 février, on a vu effectivement les supporters qui ont été à la pointe de cette contestation-là.
Oui, l'emblématique entraîneur Jamel Belmadi, qui est le sélectionneur donc de l'équipe des Fennec, disait quelques jours, c'était avant la demi-finale contre le Nigeria, on représente une nation avec une histoire forte, avec notre révolution, notre prise d'indépendance. On est un peuple fort qui a envie de grandir, de s'affirmer. On souhaite de tout cœur arriver à ça, qu'on nous laisse nous affirmer pour faire rayonner le pays. On ne peut pas être plus clair.
Évidemment. Et Jamel Belmadi, d'ailleurs, l'entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie, qui a grandi côte à côte avec l'entraîneur du Sénégal, ce qui est aussi intéressant dans la composition de ces équipes, très binationale, et l'équipe du Sénégal et l'équipe d'Algérie. Et oui, tous ces joueurs, je crois, et l'entraîneur avec eux, ont porté ce double espoir, le double espoir de gagner, évidemment, cette finale, bien sûr, et d'aller le plus loin possible, avec une équipe dont, au tout début, qui était, comme d'habitude en Algérie, d'ailleurs, pour des équipes composées de binationaux, source de beaucoup de controverses.
Il y en a 14,
voire d'un anathème. 14, exactement, et 11 d'ailleurs dans l'équipe du Sénégal, je crois.
Mais 14, vous avez rappelé que les deux entraîneurs ont été élevés à Champigny-sur-Marne.
Ils ont grandi côte à côte, je crois qu'ils ne se connaissaient pas vraiment à l'époque, mais non. Ils ont dû jouer un peu ensemble après, à Champigny-sur-Marne, exactement. Donc oui, double espoir et double victoire. Alors double victoire, la victoire sportive est là, la victoire politique, évidemment, continue de se faire attendre.
Se fait encore à attendre. Là, on a retrouvé Amel Boubekeur, bonjour madame.
Bonjour,
vous êtes sociologue, donc je le disais, vous êtes en ce moment à Alger, vous êtes sociologue associé à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. On a évoqué évidemment la dimension très politique de la victoire hier de l'équipe d'Algérie, on a évoqué rapidement les réactions ici dans les quartiers assez emblématiques, hein, de la communauté algérienne à Paris, que sont Ménilmontant, Belleville, et évidemment, quelle est l'ambiance, j'imagine qu'elle est euphorique, Amel Boubekeur, du côté d'Alger, mais qu'elle est aussi marquée de politique.
Oui, une ambiance euphorique, un sentiment qu'on peut relâcher la pression pour ce qui est un premier objectif atteint, à savoir la Coupe d'Afrique, mais en même temps le sentiment aussi que ce n'est pas terminé. Alors, cette politisation du football dont vous parliez, elle n'est bien entendu pas nouvelle, je rejoins vos invités là-dessus. Mais ce qui est nouveau, c'est le sentiment que c'est possible. C'est-à-dire les matchs de football, les stades de football ont toujours été considérés par les supporters comme des espèces d'enclaves, voire les dernières enclaves où il était possible de s'exprimer politiquement sans tabou et sans censure. Mais en même temps, il n'y avait pas de jonction avec la vie politique réelle. Et c'est ce qui est nouveau, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le Chirac, avec l'équipe, avec la capacité de se réapproprier politiquement la patrie, mais ensemble et en dehors des marges, en fait, créées par pouvoir politique, et en étant au centre de la vie politique et de la vie publique, et en s'exprimant, en se disant que c'est possible, et bien ça, c'est nouveau, en fait.
Michaël Correa, vous avez, je le disais, regardé un peu cette histoire des relations entre les stades et la dimension plus politique, les revendications politiques. Ce que nous dit à l'instant Amel Bouakar est très intéressant, c'est-à-dire ça a toujours existé. Ce qui a changé, c'est que maintenant, on pense que c'est possible, la jonction est possible.
Effectivement, c'est-à-dire qu'en Algérie, les stades ont toujours été un peu délaissés par le pouvoir comme un espèce, on va dire, de défouloir ou d'exutoire. Dès les années 30, les Algériens chantaient ce qu'on appelle des narchides, c'est-à-dire des chants religieux, pour un peu revendiquer leur identité arabo-musulmane face aux colonisateurs français. Dans les années 50, on va vraiment conspuer les Européens dans les tribunes. Dans les années 70, c'est les Kabyles qui vont scander Imazir pour revendiquer leur identité berbère. Dans les années 80, c'est pareil, on va, juste avant les révoltes de 1988, on va beaucoup entendre de chants contre le pouvoir. Et là, depuis quelques années, il y a une nouveauté, c'est l'émergence de la culture ultra, qui est cette culture supporter radicale qui est née en Italie dans les années 70 et qui a une très grande particularité, enfin plusieurs en tout cas. Donc, c'est l'animation des tribunes avec des animations visuelles, des chants, des slogans, et puis aussi une certaine culture, on va dire, de l'anonymat, de l'indépendance vis-à-vis des institutions, et puis une grande solidarité entre membres. En fait, quand cette culture-là débarque au début des années 2000 en Afrique du Nord, toute la jeunesse masculine va très rapidement se la réapproprier, et en fait ça va vraiment structurer ce défouloir, cette exutoire des tribunes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, il y a une vraie culture du chant à part entière, du chant contestataire, et qui fait qu'un chant, un groupe comme Oula del Badja fait de nombreux tubes, hein, comme ce fameux Casa del Moradia. Le tube d'avant, c'était Kiluna, ça veut dire foutez-nous la paix. C'était vraiment une chanson qui conspuait la corruption du pouvoir. La chanson d'avant, elle s'appelait Babour Hellou. Ça veut dire barque de bois. En fait, il racontait vraiment l'histoire de toute la jeunesse qui essaye de traverser la Méditerranée, quoi.
Oui, la Moradia, c'est le quartier où se trouve le palais présidentiel. Exactement. Et donc la Casa del Moradia, c'était une référence aussi à la fameuse série Casa de Papel. Voilà, c'est une façon de dire. Et les paroles sont très claires. Hein. Il parle au premier mandat, c'était comme ça. Au deuxième mandat, on s'est fait enfumer.
C'est très frontal. Enfin,
voilà, c'est très frontal. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment une attaque Karim Amelal qui est très frontale contre le pouvoir. Et il n'y a pas d'autre espace que les stades jusqu'à présent. D'autres espaces de liberté pour ça.
Non, c'est vrai que les stades, comme l'a dit Michael, ont depuis très longtemps été des stades d'expression collective, de révolte, de rébellion. Il y a de multiples exemples. On peut ajouter l'exemple de la JSK aussi, qui est le club de la Kabylie. C'est intéressant parce qu'il y a en ce moment il y a plein de jeux de miroirs, mais il y en a deux qui sont assez frappants. Un qui est très politique, c'est cette jeu de miroir autour de la révolution. Parmi les slogans qui ont été scandés hier et depuis le début de la CAN, il y a deuxième étoile, deuxième république. Et donc là, pour le coup, la deuxième étoile est accrochée au maillot et il manque plus que la deuxième république. Et ça renvoie et c'était la phrase de Guédioura quand il a tweeté sur la référence à la première révolution, c'est-à-dire en fait la révolution de 62, comme si rien ne s'était passé entre les deux. Et les joueurs, mais aussi ceux qui manifestent dans la rue, sont dans une référence permanente aux martyrs, à 1962, à l'équipe du FLN, comme s'ils reprenaient un petit peu ce flambeau-là. Et l'autre jeu de miroir, et tu as un jeu de miroir en synchronie pour le coup, c'est frappant aussi de voir les échos extraordinaires qu'il y a entre ce qui se passe dans la rue le vendredi. Hier, on était vendredi, donc il y avait à la fois le match de foot et puis le match dans la rue, c'est-à-dire le rassemblement et la manifestation. Et la reprise de façon très concomitante de tous les slogans, de tous les hymnes. On peut ajouter Soul King aussi, oui, avec sa liberté, fameuse chanson Liberté, qui résonne à la fois dans les rues et dans les stades, mais avec cette, un effet de synchronie qui est une, comme le disait Amel, qui est une première pour le coup.
Amel Boubekeur, cette spécificité finalement du rôle des ultras décrite par Michael Correa et Karim Amelal à l'instant, c'est-à-dire cette faculté à organiser un mouvement, à apporter peut-être une structure, des chants, des même des revendications, elle marque aussi l'absence d'alternative politique, c'est-à-dire, comme je le disais en introduction, d'absence de partis politiques ou même de syndicats capables véritablement de structurer cette opposition qui a émergé. Je le disais, à partir de février.
Bon, je vous répondrai bien entendu sur la question du leadership, mais je pense qu'avant ça, il y a quelque chose que j'ai à noter, c'est cette généralisation de la culture de la négociation directe avec le régime. Au-delà, par exemple, de tout ce qui était alimenté par, par le pouvoir algérien pendant des années, les slogans publicitaires, etc., pour le soutien à l'équipe nationale, et qui avait un peu, en fait, à endormir ces Algériens, les slogans qui m'ont fait de sorte.
Amel Boubekeur, je suis désolé, on vous entend très très mal. Ça, il y a beaucoup de, on n'a pas beaucoup de chance avec le téléphone aujourd'hui dans cette émission. Je rappelle que vous êtes en direct d'Alger. Je pense qu'on va essayer quand même de vous rappeler pour voir si ça fonctionne, si ça fonctionne mieux. Merci. Je suis désolé d'avoir dû vous couper. Mais alors peut-être Karim Amelal sur cette question de la structuration politique et de l'absence peut-être d'encadrement politique aujourd'hui de la contestation, de l'opposition. C'est ça qui rend peut-être aussi, qui fait monter mécaniquement le rôle des supporters et des ultras.
Oui, alors c'est vrai, et en même temps, le mouvement est relativement récent, hein, 22 février, et les choses bougent, les choses avancent malgré tout. Il y a un certain nombre de personnalités qui émergent, il y a une recherche de personnalités consensuelles, il y a une liste de 13 personnalités.
Oui, c'est ça, c'est le Forum civil pour le changement. Exactement, qui a présenté 13. C'était jeudi, je crois, 13 personnalités. Ça aurait été accepté par le chef d'État par intérim Ben Salah, dont, rappelons-le, il aurait dû quitter le pouvoir début juillet, organiser des élections. Ça n'a pas été fait.
Et en même temps, c'est très difficile parce que il y a une vraie défiance au sein du mouvement et des Algériens de façon générale, eu égard à toutes ces décennies de pouvoir et de d'un régime qui est en train de s'ébrécher, de s'effilocher, mais enfin, il y a une vraie défiance à faire émerger des porte-paroles par rapport à la question de la représentation. Et du côté des représentants putatifs, il y a aussi une certaine réticence à se mettre en avant et à accepter de porter le flambeau de la contestation dans un cadre qui n'est pas du tout affermi, établi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors même que, c'est un certain nombre de revendications de ces 13 personnalités, que les libertés publiques commencent à être mises sérieusement entre parenthèses. Il y a une répression qui n'est pas massive à ce stade, mais enfin, des journalistes, des blogueurs, des personnalités, et je ne parle pas des oligarques et d'un certain nombre de personnes soupçonnées de corruption qui ont été arrêtées, phénomène de détention ou d'arrestation arbitraire. Bref, il y a quand même un processus qui se tend, donc c'est délicat. En même temps, je crois qu'il faut aussi observer que les choses avancent, pas aussi vite que certains le souhaiteraient, mais enfin ça avance. Et en face aussi, il y a quand même le président par intérim, qui n'est plus rien aujourd'hui, a accepté le principe d'une transition. Donc des deux côtés, il semblerait qu'il y ait une certaine évolution.
Qui n'est plus rien, parce que le pouvoir, c'est plutôt le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Sarah.
Oui, de facto, bien sûr.
Mais c'est une des spécificités aussi, on y reviendra, c'est cette apparition sur le devant de la scène des militaires qui ont toujours gouverné, mais plutôt en arrière-plan. Et c'est peut-être aussi l'une des grands apports de ce qui est en train de se passer en Algérie. Mais restons un petit peu sur le football avec vous, Michael Correa, puisque c'est la question aussi qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire du stade à la rue, savoir comment cette victoire des Fenech à la CAN, ou en tout cas cette mobilisation autour du football, accompagne les mouvements politiques. Il y a peut-être aussi un risque de récupération. Comment est-ce que les ultras arrivent à se prémunir des risques de récupération qui sont évidemment tentés tenté par le pouvoir politique algérien, voilà, qui voit comme tout pouvoir politique, dans une victoire comme celle-ci, l'occasion de redorer un peu son blason.
Oui, les risques de récupération, pardon, ils sont là depuis 15 ans, hein, depuis l'émergence du mouvement ultra. Quand on voit cette force d'organisation de la jeunesse en Algérie, c'est quand même 45% de la population qui a moins de 26 ans, et 30% de cette jeunesse-là qui est au chômage. Donc, il y a un vrai enjeu politique autour de cette jeunesse-là. Oui, la force des ultras, c'est justement ce que je disais au début. Une de leurs plus grandes pratiques, c'est la culture de l'anonymat, la culture du collectif aussi. Quand on parle qu'effectivement, c'est pas une force d'opposition, c'est pas une force politique, en tant que parti, les ultras, ils ont quand même diffusé une certaine culture politique au mouvement, cette culture de pas avoir de leader mis en avant, cette culture du collectif également, cette culture aussi de descendre dans la rue et d'affirmer ses libertés. Ensuite, effectivement, je pense que cet anonymat-là fait que ça a toujours été impossible enfin, ils ont toujours réussi à échapper aux dynamiques de corruption qui sont propres au régime algérien, justement.
Amel Boubekeur, on vous a retrouvé et me dit-on, la ligne est meilleure, je l'espère, car on a vraiment besoin de votre regard aussi de sociologue en direct d'Alger sur cette question-là, et notamment, puisqu'on évoquait cette proposition de 13 personnalités par le Forum Civil pour le Changement, qui est présidé par Abderrahmane Harar, 13 personnalités qui ont été choisies pour prolonger le Irak et être acceptées à la fois par le pouvoir et la population. La question des leaders et de l'émergence ou non de leader politique à cette contestation?
Alors oui, donc voilà, il y a une espèce de topographie de la culture politique qu'il faudrait faire en Algérie pour que ce soit un petit peu clair, et notamment par rapport à la politisation à travers le football. Il y avait, comme je vous disais tout à l'heure lorsqu'on a testé, des espèces d'enclaves comme ça, où les gens étaient libres de contester, mais sans avoir une quelconque de demander des comptes au régime. Et avec le Chirac, en fait, ces barrières ont émergé, et avec la Méditerranée et l'armée qui revient au premier plan et qui apparaît pour ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire le principal acteur de décision en Algérie, il y a maintenant une capacité des gens à demander des comptes directement, et notamment ça se fait à travers le football. Et, ça n'est pas limité au juste fort, en fait. Les gens qui ont apporté certains symboles, comme certains masques anonymes dans les manifestations. On peut voir sur certains nord d'Alger des messages politiques, etc., mais ça reste quand même une culture politique ultra-minoritaire, mais par contre qui a contribué à la massification de la demande ou de la politisation par le football, par le chant, etc., de la durée de la population. Et ce qu'on a dit hier, par exemple, à la manifestation de vendredi hier, alors le slogan phare ou le chant phare de la manifestation hier, je ne vais pas chanter parce que c'est la première fois sans doute qu'une sociologue chanterait sur France Culture, mais c'est-à-dire « Goul el gaïd, du naviguer Kalchifa », donc « dit à gaïd salaire », de débrouiller une cape vermeille, en fait. « Shaba au fayak, nahina boutfira », le peuple est confiant, nous avons réussi à dégager boutfira. « Goulolo, maïeshtira nashti abil balon », donc, oui, c'est une force de terre, mais c'est dans ce cas-là, qui ne nous entubera pas avec le football. Il n'y a pas de moyen qu'il nous entube avec le football. Nous arrachons les libertés, quel qu'en fût le prix. Et ça, c'était chanté par des vieux, par des femmes, par des enfants, etc.
Et ça a été chanté dans la rue et pas seulement dans un stade de football.
Voilà, dans la rue hier. Et donc, c'est cette espèce de recul et de conscientisation du football et des chants et cette culture de négociation directe, ou en tout cas d'affiliation directe du régime à travers les chants, à travers la culture populaire. Mais il y a aussi une prise de recul sur comment le régime peut instrumentaliser le football, la fierté patriotique, pour sa propre longévité, en fait.
Oui, il y a un vrai combat. Karim Amela, il y a un vrai combat de légitimité qui se joue entre les manifestants et le pouvoir aujourd'hui, et qui est bien présent notamment chez les manifestants aussi bien que chez les supporters de foot, sur cette idée, voilà, qui est le véritable héritier de cette tradition, de cet héritage des Moudjahidines, de ceux qui sont combattus pour l'indépendance de l'Algérie. Un manifestant déclarait: après la France, le FLN a colonisé notre pays, il a confisqué notre révolution et spolié relier notre histoire. En 62, le territoire, mais pas le peuple. Nous sommes en train de vivre notre deuxième indépendance. Depuis le 22 février, il y a une libération, mais elle est mentale, elle n'est pas encore physique. On va y arriver. On voit qu'il y a une sorte de contestation de l'origine, ou en tout cas, voilà, du pouvoir en place, de sa capacité à se revendiquer de la libération, du mouvement de libération, comme il l'a toujours fait.
Oui, c'est ça. Alors, contestation, pas de l'origine, mais effectivement,
oui,
de la propension des pouvoirs successifs depuis 1962 à ne cesser de se légitimer, de se relégitimer en référence à la guerre dite de libération en Algérie 1954-1962. Et c'est intéressant aussi de parce que ça fait tomber un peu un cliché, de noter à quel point la foule, les masses et le peuple algérien dans sa diversité a conscientisé tout cela, comme le disait d'ailleurs Amel. On en parlait il y a quelques mois comme de voilà, les Algériens dépolitisés, inertes, amorphes, etc. Et du coup, pas grand-chose ne pourrait changer et ne va changer. Bon, en réalité, et on le voit chaque vendredi dans les rues, malgré des décennies de lavage de cerveau organisées par le régime pour déshistoriciser la révolution, la première révolution du FLN entre 1954 et 1962, il y a une vraie volonté de revenir aux sources et de se réenraciner dans cette première révolution. Et ce qui illustre ça de façon très très frappante, c'est effectivement ce défilé de portraits des martyrs pratiquement chaque vendredi, ou en tout cas de façon régulière, en référence à cela, comme si il fallait repartir en quelque sorte, ce qui est une vraie révolution au sens étymologique du terme, un retour au point de départ en 1962 pour continuer dans cette lancée-là.
Michael Correa, l'affrontement n'est pas que symbolique pour l'histoire, c'est aussi un affrontement très très concret. Et vous le disiez, il y a les chants des supporters, et il ne s'agit pas juste d'une contestation du pouvoir en règle générale. Il y a des vrais sujets, des problèmes sociaux, l'émigration clandestine, la drogue, l'autoritarisme évidemment, la corruption, le chômage de masse. Tout ça est abordé à travers les chants des supporters.
Oui, à travers les champs, il y a cette vraie culture là.
Ça se retrouve dans la rue, évidemment.
Alors, dans l'USMA, par exemple, qui est ce grand club d'Alger, eux, ça fait depuis la Coupe d'Algérie de 1969 qu'ils ont cette tradition de chant. C'est aussi un club qui est vraiment ancré dans la Casbah, qui est aussi le lieu de naissance du charabi, cette musique arabo-andalouse. Donc, ils vont vraiment puiser là-dedans. Ils vont s'y puiser dans le rail, bien sûr, avec cette tradition contestataire. Ce qui est important pour revenir à ce qu'on disait sur cette question de revenir aux sources de la révolution, un club comme l'USMA, par exemple, faut savoir que Youssef Saïdi, qui était le chef militaire FLN pendant la bataille d'Alger, c'était quelqu'un qui joue au football à l'USMA et qui va à cette époque-là, durant la bataille d'Alger, recruter des combattants au sein de ce club de football-là. L'autre grand club d'Alger, ce qu'on appelle le doyen, le Mouloudia Club d'Alger, il est créé en 1921 par et pour des Algériens. Ça va tellement faire peur aux autorités coloniales françaises qu'ils vont imposer des quotas de joueurs européens au sein du championnat algérien. Et quand on parle avec ce qu'on appelle les Awali, ces jeunes des quartiers populaires, ces jeunes de Bab el-Oued, des banlieues d'Alger, et ils se disent clairement, nous on est là pour continuer cette révolte-là en fait. Les jeunes supporters de Houled El Badja, c'est des gens qui ont 15, 16, 17 ans, ils disent, nous on est là pour continuer cette continuité historique, on est là pour continuer à contester le pouvoir en place. Donc il y a vraiment, en fait, les clubs de football ont toujours été, entre guillemets, un creuset de cette histoire et des structures d'éducation populaire au sens noble et politique du terme, pour cette histoire-là, pour cette réappropriation de l'histoire qui effectivement a été en quelque sorte panthéonisée, gelée par le régime.
Amel Boubacar, une dernière question, malgré la ligne qui est malheureusement pas très très bonne avec Alger, justement puisqu'on parle de ce rapport à l'histoire, au mouvement de révolte, on voit que l'armée, dont vous avez dit que voilà, elle apparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire celle qui dirige véritablement le pays derrière un régime politique aux ordres, on voit que les tactiques traditionnelles du pouvoir pour étouffer le mouvement de révolte n'ont pas fonctionné. L'opposition entre les communautés, on a parlé des Kabyles déjà, ça a souvent été le cas, le soutien étranger, la peur d'une déstabilisation profonde, voilà, où ils font peur en disant, en rappelant les années noires des années 90, en disant, voilà, si on se déstabilise, c'est le retour des islamistes, et avec les morts qui s'en suivent, ils arrêtent aussi des représentants, un certain nombre de représentants ont été arrêtés de cette contestation, mais tout ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui, Amel Boubacar?
Oui, je suis optimiste, même si ce n'est pas une de mes responsabilités professionnelles premières, mais je suis optimiste. Mais sur la question du leadership, en fait, il faut savoir que ce qui se passe a remis en cause le leadership d'abord ou la mainmise du pouvoir sur le football. Parce que je ne sais pas si ça a été évoqué, mais il faut quand même se souvenir que le frère de Haddad, l'un des premiers, l'un des oligarques connectés au régime, dont le frère dirigeait le club de l'ISMA, a été démis de fonction et ce sont les supporters aussi qui ont cette impression de mener une résolution contre l'accaparement de ce club. Le président de la JFK, donc c'est le club de la jeunesse
Kabyle,
la jeunesse Kabyle, avait été aussi menacé, y compris physiquement agressé, pour ses positions pro-Chirac, etc. Donc il y a aussi un impact sur le leadership. Maintenant, pour vous répondre, je pense qu'il est un peu hors propos de faire porter la responsabilité de l'émergence des leaders en Chirac, parce que c'est pas sa fonction première, il n'y avait pas eu d'ambition de représentativité, si c'est une ambition de mise à nu du pouvoir et de se réaccaparer l'État et ses institutions, le leadership qui émergera lorsqu'une transition sera organisée, que des institutions transparentes seront érigées, donc par exemple une Assemblée nationale constituante, des garanties concrètes sur la capacité d'organiser une présidentielle libre et transparente, etc. Et à ce moment-là, émergera le leadership. Alors, je comprends cette impatience à voir émerger un leadership qui pourrait négocier avec un autre.
C'est anticipé, selon vous. Oui, c'est un peu trop tôt, Amel Boubacar, pour voir émerger ce leadership. Il faut faire confiance, Karima Mellal, au processus politique. Ce sera ma dernière question, le processus politique qui est en cours.
Oui, bien sûr. D'abord, il ne faut pas se tromper de schéma. Enfin, c'est pas, même s'il se revendique du mouvement, c'est pas à l'équipe algérienne d'incarner ça aujourd'hui. Il faut refaire de la politique. C'est le but de cette transition. Il faut qu'un cadre soit établi. Amel Boubacar parlait de constituante. C'est un cadre possible, mais en tout cas, il faut revenir à la politique. Après le match sportif, c'est maintenant le match politique qui s'ouvre et ça sera sans doute le plus difficile.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce magazine du week-end. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 12h40 pour évoquer l'anniversaire du premier homme sur la Lune avec trois femmes, l'astronome Fatoumata Kébé, la géophysicienne Arlène Amar Israël et la géographe Isabelle Surbès-Verger. En seconde partie, il sera question de crypto-monnaie. Nos invités seront la juriste Marianne Frison-Roche et les économistes Tristan Dissot et Philippe Erlin. Merci à toute l'équipe programmation Chloé Rossignol, à la coordination Hugo Boursier, préparation Isée Sorel et Benjamin Teinturier. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Duterre et la prise de son Pierrick Monsigny et Alice Seyed. Dans quelques instants, 13h50, l'heure de retrouver les idées claires par Nicolas Martin. Aujourd'hui, les aides sociales nous coûtent-elles un pognon de dingue ?